Interview.
2 jours.
À l'écoute de RDY sur le 107.5 FM, 101.7 également, et RDY.fr sur internet avec Julien Lescaut. Bonjour.
Bonjour.
Tu nous viens de Saillant.
Exactement.
Et tu es écrivain public.
Et je suis écrivain public.
Alors comment est-ce qu'on devient écrivain public déjà pour commencer ?
Alors je pense qu'il y a pas mal de manières de le devenir. Je vais raconter comment moi je le suis devenu. En fait, j'ai fait pas mal de métiers différents dans ma vie avant ça. J'ai 38 ans. Et dernièrement, on va dire dans les derniers mois après mon dernier boulot, j'ai décidé de laisser un peu le temps au temps pour trouver un truc qui me correspondrait. Et du coup, j'ai bien laissé ouvert et par un peu des hasards, des discussions, des synchronicités. Je suis tombé sur ce métier d'écrivain public dont j'avais déjà entendu parler, sans jamais spécialement m'y intéresser. Du coup, à partir de là, j'ai commencé à regarder sur Internet, à prendre des renseignements sur qu'est-ce que c'est écrivain public. Et là, je suis tombé dans un univers absolument dingue, parce que très, très complet, très large, très divers, et qui, sur le papier, vraiment me semblait me correspondre. Ça m'a donné envie, en fait, tout de suite. Donc c'est par le prisme de l'envie que je suis arrivé à ça. Donc j'ai fait des recherches, je me suis vraiment documenté, j'ai interrogé des gens qui sont déjà écrivains publics. Et là, ça a achevé de me décider et de me lancer là-dedans.
Mais parce que toi-même, tu étais déjà, j'allais dire, littéraire, t'écrivais, il faut quand même avoir un peu cette fibre-là.
Oui, j'ai toujours été littéraire. J'ai une formation à la base plutôt littéraire, puis ensuite un peu généraliste. Mais j'ai toujours lu beaucoup, écrit beaucoup, pour moi, hein, pour le coup. Et pas mal écrit dans mon boulot aussi, dans plusieurs de mes boulots, j'avais à écrire. Donc du coup, faire des rapports, des choses comme ça, j'ai toujours eu à écrire. Et j'ai toujours eu à cœur de le faire bien. J'ai vraiment un rapport
T'es 20 sur 20 en orthographe.
Alors j'étais 20 sur 20 gamin. Là, je suis en train depuis quelques temps, de beaucoup reprendre, alors pas des cours d'orthographe, mais vraiment d'aller dans le détail de la langue. Et c'est assez incroyable parce que je découvre qu'en fait, je suis plutôt 17 ou 18 sur 20 que 20 sur 20 et qu'il y a énormément de petites choses dans la langue, là, au point de vue de l'orthographe notamment, de la syntaxe, etc., que je ne connaissais pas précisément. Donc je suis en pleine formation moi-même à ces petites subtilités de la langue française qui sont vraiment innombrables. Je pense qu'il n'y a personne qui les maîtrise toutes, tellement elles sont nombreuses et complexes.
Cette langue est, paraît-il, très plaisante à étudier.
Oui, moi j'adore. Là, le kiff, c'est vraiment ça, c'est de l'étudier, de tomber sur des règles, des choses, des spécificités que je ne connaissais pas, et de les apprendre et de les comprendre quand elles ont une explication. Parfois, elles n'ont pas d'explication. Hein. Là, c'est étonnant. Il y a certaines règles orthographiques je ne trouve pas trace historique de comment elles s'expliquent.
Et oui, ça fait plonger dans l'histoire, en fait.
Ça fait énormément plonger dans l'histoire. Alors, ce que je trouve intéressant, il y a deux, dans les subtilités de la langue, il y a deux raisons pour lesquelles souvent notre langue peut paraître difficile, à l'écrit, là je parle surtout. Parfois, c'est des raisons vraiment étymologiques, historiques, où on peut expliquer pourquoi tel mot s'écrit comme ça, pas comme ça, pour comment il a évolué. Mais dans d'autres cas, on ne peut pas l'expliquer. Et ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu quand même des moments dans l'histoire où la langue a été volontairement complexifiée à l'écrit pour différencier socialement les personnes. J'imagine que j'étonne beaucoup de monde en disant ça. Donc il y a certains mots.
T'as un exemple, là, comme ça ?
Comme ça, qui me viendrait, non. Non, là, tout de suite, à brûle pour point, j'en ai pas, mais je sais que c'est le cas de certains mots. Et ça me fait faire une association d'idées avec la réforme de l'orthographe actuelle, qui fait dire à certains que c'est une assez bonne chose, parce que ça simplifie l'écriture de la langue. Je pense qu'on peut leur donner raison, effectivement, ça permet, quand on ne met plus d'accent circonflexe à tel mot, qu'on permet d'écrire tel mot.
Qu'on arrête avec le PH.
Voilà, des choses comme ça. C'est à la fois un simplificateur, et ça a certainement des aspects positifs, et c'est en même temps une manière d'amplifier le marqueur social entre les classes, parce que finalement, ceux qui l'écrivaient PH parce qu'ils l'ont appris et qu'ils le savent, ils vont continuer à le faire. Et du coup, ils vont continuer à se démarquer socialement. Donc c'est une réforme qui est un peu en demi-teinte, moi je trouve, de mon point de vue, cette réforme de l'orthographe.
Et oui, rapport au fait qu'il y avait des mots qui avaient été justement stylisés parce que faisant probablement partie déjà d'une caste de personnes.
Alors certains oui, certains mots oui, et puis d'autres non, vraiment, parce que étymologiquement, on écrivait tel mot de telle manière pour des raisons étymologiques qui s'expliquent. Mais on décide aujourd'hui pour certains, non, non, bah, le pH pour voilà, tel mot, on le remplace ainsi. Alors qu'en réalité, pour certains mots, je n'ai pas d'exemple tout de suite à brûle pour point pareil en tête, mais ça s'explique. On peut expliquer pourquoi les mots s'écrivaient comme ça ou pourquoi il y a des accents circonflexes. Par exemple, l'accent circonflexe sur le O dans beaucoup de mots est une déviation de l'ancien français qui mettait un S, forêt, avec l'accent circonflexe sur le E de forêt. C'était forest dans l'ancien français, donc on met un accent. Donc c'est une trace historique, là, il y a quelque chose qui... Bon, après, ça, on peut l'enlever, hein. Voilà. Enfin, c'est assez intéressant. Il y a plein de choses autour de la langue. La langue, ce n'est pas que la langue elle-même, ce n'est pas que l'art, les belles lettres, c'est aussi du social. C'est du politique et du social, la langue, énormément. Et ça l'est encore fortement aujourd'hui, parce que entre un écrit qui nous tombe dans les mains, qui est écrit correctement, on va dire, ou compréhensible, et un qui ne l'est pas, il y a tout de suite des représentations qui viennent. Donc ça peut être un discriminant social, dans un sens comme dans l'autre.
Est-ce que tu le vois ?
Oui. Oui, je le vois à travers... je le vois rien qu'à mon prisme, quand je peux recevoir un mail ou quelque chose qui est écrit vraiment avec énormément de fautes, d'une manière... Ça me saute un petit peu aux yeux et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une réaction. Alors après, je suis capable de la modérer voilà, avec l'analyse sociologique des choses. Et puis, de toute façon, ce n'est pas parce qu'une personne écrit avec difficulté que... Voilà. Mais ça, si je me mets à la place de personnes qui reçoivent, par exemple, dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail ou autre... dans tous les domaines d'ailleurs, qui reçoit un écrit qui est parfois même, là je ne parle même plus des fautes d'orthographe, mais pas compréhensible, où qui peut donner vraiment matière à « mince, je n'ai pas compris ce que la personne voulait dire », ça peut être gênant pour la communication en fait, tout simplement. Donc du coup, c'est un sujet qui est important pour moi.
On parlait d'histoire, écrivain public, c'est aussi un très très vieux métier et dont on pourrait avoir l'impression qu'il n'existe presque plus.
Ouais. Ouais, c'est un métier. Alors
par exemple, à La Ronde, tu es seul ?
Alors, à La Ronde, non, je ne suis pas seul. Il y a quelques personnes que j'ai pu rencontrer dans le coin, là, on va dire dans la Drôme. D'autres dont j'ai pu voir trace sur Internet. Il y en a peu, hein, très clairement. Il y en a. Alors, ils sont fédérés dans deux associations en France, à ma connaissance. Hein, il y en a peut-être d'autres, mais l'une qui s'appelle l'Association des écrivains publics de France, l'AEPF, et le GREC, le groupement quelque chose. Écrivain Conseil, qui est le deuxième groupement. Et ces deux groupements, enfin en tout cas de manière publique, recensent quelques centaines de personnes, mais finalement assez peu. Je pense qu'il y en a un petit peu plus qui ne sont pas forcément recensés et qu'il y en a aussi qui ne s'appellent pas écrivain public ou qui ne se nomment pas eux-mêmes écrivain public et qui existent.
On parle d'autres services, type France Service, ce genre de choses. Des fois, il y en a dans des...
Alors, en tout cas, c'est un service que France Service peut proposer, effectivement.
Oui, par exemple.
Voilà, sans qu'il y ait forcément quelqu'un qui soit lui-même, se disant écrivain public, qui va intervenir, qui va filer un coup de main. Parce qu'en fait, c'est aussi un domaine où il n'y a pas forcément besoin d'être écrivain public. D'ailleurs, ça ne veut pas dire grand-chose. Je le dirai après, parce que ce n'est pas une profession réglementée. Pour le faire, il y a plein de gens qui simplement se débrouillent bien à l'écrit, sont à l'aise et qui peuvent aider de ce point de vue-là et faire office d'écrivains publics auprès de personnes qu'on aurait besoin. Après, c'est quand même un métier si on le pousse un petit peu plus loin. Et alors il est reconnu par une licence. Il y a deux licences pro, mais qui sont récentes, qui ont quelques années. Une à Paris et une à Toulon. Et il y a une possibilité aussi de se former à distance par le CNED. Voilà. Donc
oui, quand même. Donc
c'est une voie qui existe, ouais. Ouais.
Mais
c'est
assez récent. S'il y a un diplôme.
Ouais. Mais ce n'est pas réglementé, ça veut dire qu'on peut s'installer, ce qui est mon cas, écrivain public, sans avoir fait la formation adéquate. Voilà, l'être, et l'être d'une certaine manière par l'expérience qu'on a, par tout le passif et le passé qu'on a dans le rapport avec l'écrit. Et sachant que c'est important de le dire aussi, c'est vrai que quand on parle d'écrivain public, on peut penser tout de suite, l'aspect primordial, c'est la langue. Et en fait, oui et non. Oui, parce qu'il faut savoir écrire. Mais c'est également et tout aussi important, voire je pense plus important, parce qu'en fait on peut être un cador à l'écrit et faire aucune faute d'orthographe ni de syntaxe, mais être un très mauvais écrivain public, parce qu'on n'a pas le deuxième aspect qui est la capacité, on va dire, d'empathie, le rapport humain, ce qu'on appelle le savoir-être. Donc d'être capable en fait de se mettre en relation avec la personne, ou les personnes, hein, ça, on en reparlera après, il y a plein de d'univers, qui a à cœur et qui a besoin d'écrire, ou de réécrire, encore une fois, il y a plusieurs modalités. Si on n'arrive pas à être en relation avec cette personne, à comprendre qui elle est, ce qu'elle veut faire passer comme message et à qui elle le destine, on a beau écrire parfaitement, ça ne va pas être efficace parce que si on écrit, par exemple, quelqu'un, je donne un exemple, quelqu'un veut écrire une lettre de réconciliation. Quelqu'un peut venir faire appel à un écrivain public et lui demander Je suis fâché avec ma belle-mère ou mon cousin depuis 15 ans pour une affaire assez grave. J'ai envie de renouer. Je n'ai pas la distance émotionnelle pour le faire. Ça veut d'ailleurs dire qu'il ne sait pas forcément qu'il ne sait pas écrire lui-même, mais qu'il n'a pas la distance. Il a vraiment besoin d'un regard extérieur. Donc, si que j'écris...
Oui, c'est intéressant, ça. Donc, on n'est pas obligé de... Voilà, on peut faire appel à un écrivain tout public en étant peut-être soi-même très bon en orthographe.
Même très bon, oui, tout à fait. Exactement. Mais dans un cas où on n'aurait pas la distance, on va dire émotionnelle, pour simplifier, eh ben, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un pour le faire, pour avoir un regard extérieur et une action extérieure. Sachant que l'écrivain public, il n'écrit pas à votre place, il écrit avec et pour. Donc, il y a toujours une distance, un curseur entre le avec et pour. La personne doit transparaître, en fait, dans l'écrit. C'est-à-dire que, pour revenir sur l'exemple de la lettre d'amour, si j'écris une lettre d'amour comme moi, personnellement, Julien Lescaut, j'écrirais une lettre d'amour, ça ne va pas aller, parce que ça ne ressemble pas à la personne. Donc, d'une part, la personne va relire ma lettre et ne va pas s'y reconnaître, que ce soit sur le fond comme sur la forme, et d'une part, la personne qui va le recevoir ne va pas vraiment faire l'association avec la personne qu'elle connaît, ou une lettre de réconciliation, c'est la même chose. Donc, il faut arriver, et c'est, je pense, l'aspect le plus important, au-delà de la capacité orthographique, syntaxique, tout ça, vraiment la langue, d'être à la place de la personne et de comprendre ce qu'elle veut dire, en fait, et comment elle veut le dire. Et ça c'est complexe et c'est infini, quoi.
Est-ce que tu le lirais justement à ce qu'a été historiquement le rôle d'un écrivain public ? Est-ce que c'était d'abord ça, ce côté, j'allais dire, psychologique, philosophique, plus que l'écrit ? Ou est-ce qu'avant, c'était vraiment un service parce qu'il fallait écrire bien.
Ouais, je pense qu'effectivement, au départ, alors je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de l'écrivain public, mais de ce que j'ai pu en comprendre et en retirer comme information. Alors, ça date de l'Égypte ancienne. Donc, très clairement, il y avait ce qu'on appelle des scribes, un mot qui est un peu passé maintenant, mais qui vraiment écrivait, qui écrivait d'abord pour les pharaons, pour la cour, voilà, qui mettait par écrit les lois, les choses importantes pour les mettre, les graver dans le marbre. D'ailleurs, c'était écrit sur de la pierre et sur des papyrus. Et ensuite, le temps passant, et notamment on arrive à l'Antiquité, puis au Moyen-Âge, là il y a un besoin, ça, on va dire, il y a des personnes, tout le monde va avoir un petit peu besoin de l'écrit. Et quand on ne sait pas écrire, du tout, pour le cas, c'est vraiment souvent de l'illettrisme, on va faire appel à un écrivain public pour écrire une requête au suzerain ou au roi ou juste au collecteur d'impôts local. On a besoin de mettre quelque chose en écrit, on ne sait pas le faire, donc on va voir un écrivain public, et lui, il va faire quelque chose d'un ordre, on va dire, assez administratif, et finalement... assez neutre dans la formulation. L'écrivain public de l'époque, souvent, va s'exprimer, en tout cas, on imagine, de la même manière, parce qu'il va faire plusieurs requêtes administratives, donc ça va être un langage très, très classique, très codifié, toujours le même, et du coup, voilà. Mais, quelque part, ça reste un rôle de l'écrivain public aujourd'hui, parce que si quelqu'un vient me voir, c'est un cas de figure qui peut arriver, parce qu'il a des difficultés avec l'administration, problème avec la CAF, avec les impôts, avec je ne sais pas quelle administration, pour envoyer une demande ou une contestation ou quoi, moi, je vais faire une lettre qui va être assez standard et qui va correspondre à ce qu'attend l'administration. Donc, ça sera, a priori, le même type de formulation et de manière d'exprimer la langue pour Monsieur X ou Monsieur Y. Voilà. Même si les deux situations vont être différentes, donc je vais adapter, mais le langage va être... Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas mal ça. Et encore aujourd'hui, alors, il n'y a plus trop d'écrivains publics dans la place publique. On y reviendra, ce terme, écrivain public. Mm-hmm. Pourquoi public ? Par contre, il y a encore beaucoup de pays dans le monde... dans les autres continents, en Amérique du Sud, en Afrique, à d'autres endroits en Asie, où les écrivains publics sont dans la rue. Alors pour le coup, là, ils portent vraiment bien leur nom. Et ils sont dans les gares, ils sont dans certains lieux administratifs où il y a des grandes salles d'attente, où il y a beaucoup de monde. Et là, ils sont vraiment à la portée du public et ils vont écrire beaucoup un petit peu même à la chaîne. Et vraiment dans cette optique-là, aide administrative. Donc c'est un des aspects qui existe, c'est un des aspects de la profession d'écrivain public. Et voilà, et pour le coup, qui est vraiment au contact avec le public. Alors, écrivain public maintenant, on va dire en France, je ne sais pas trop dans les autres pays d'Europe, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais il est public, alors il peut être
public. Il est ouvert à tout le monde, mais chez lui.
Chez lui, alors il y en a qui ont un cabinet en ville, mais on va dire qu'il est peu sur la place publique. Je ne sais pas si certains des auditeurs m'auront vu, mais je me suis mis pendant quelques semaines, quand il faisait encore pas trop froid, au marché de Die, au marché de Saillant, au marché de Cray, avec une table et écrivain public.
Et ça a marché ?
Bah, ça m'a fait venir beaucoup de personnes qui étaient intéressées et qui m'ont interpellé, avec qui on a discuté.
Mais tu n'as pas écrit sur le moment, quoi.
Non, il n'y a pas eu ça. Parce que ce n'est pas une habitude, je pense. Voilà, tout simplement. Donc, je faisais plutôt partie un peu d'un certain folklore. Il y avait un certain intérêt qui se dégageait. Mais ce n'est pas une habitude. Alors que dans d'autres pays, c'est très, très courant. Voilà.
Et pourquoi, selon toi ?
Parce que le degré d'illettrisme ou de difficulté avec la langue, je dirais, est plus courant est plus répandue dans les pays dont j'ai parlé, là peut-être dans certaines sphères culturelles, que chez nous. Mais je pense aussi qu'il y a une habitude qui s'est un petit peu perdue et qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont pris le relais de l'écrivain public en France, notamment les assistantes sociales, et c'est une très bonne chose d'ailleurs, des assistantes sociales, des personnes qui vont accompagner les gens plus globalement dans leur démarche économique et sociale, et qui vont faire un petit peu office de cela. Alors que l'écrivain public, il va vraiment prendre tout le type de demandes. J'ajouterais qu'il y a aussi beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des grosses difficultés avec l'écrit. On en connaît tous sans le savoir, parce qu'en fait, ils s'expriment très bien, ils sont très bien intégrés, enfin, tout va bien. Mais en fait, alors, certains, ça va même jusqu'au fait qu'ils ne sachent pas du tout écrire. Et pour beaucoup, ils ont des énormes difficultés. Mais en fait, ils s'en sortent d'une certaine manière et ils vont trouver des moyens de donner le change dans leur vie. Par contre, il peut arriver que dans des situations précises, ils se retrouvent vraiment en difficulté et que là, ils aient besoin de quelqu'un. Alors, ça sera peut-être un ami, en fait, tout simplement, ou quelqu'un de leur entourage. Mais ça ne sera pas forcément évident. C'est pour ça que l'écrivain public... a aussi cet intérêt-là, c'est que c'est pas évident d'aller voir son beau-frère pour écrire un truc et lui révéler finalement par là qu'on sait pas écrire ou qu'on sait vraiment, que d'aller voir quelqu'un qui est, comme moi ou comme un autre écrivain public, neutre, impartial, et qui va conserver vraiment une confidentialité pour faire ça. C'est pas évident d'avouer.
Et puis en plus, c'est ton boulot, quoi, donc toi, à la limite, tant mieux si c'est pas écrire, non? Non, je voulais dire.
Bah, en tout cas, oui.
Ça te fait bosser.
Moi, c'est mon... Ouais, moi, voilà, donc, moi, c'est mon
d'où
boulot.
L'intérêt de protéger, la confidentialité.
Oui, ça, c'est vraiment un aspect qui est très important à tout niveau.
Je voudrais qu'on se concentre, du coup, sur cet aspect, j'ai appelé ça psychologique, philosophique, enfin, le temps que tu vas prendre avec les personnes... parce que tu as dit toi-même, aujourd'hui, c'est peut-être des rôles qui sont plus ou moins pris soit par des services d'État, soit des assistantes sociales, etc. Comment est-ce que tu te positionnes là-dedans, justement, ce rapport au social, à la personne? Combien de temps on passe en moyenne pour rédiger une bonne lettre de réconciliation ou d'amour?
Alors, c'est très varié selon les missions, effectivement, selon si c'est une lettre, par exemple, de réconciliation, selon si c'est un courrier à l'administration, selon le contexte. Si c'est par exemple un courrier où il y a un gros passif, plein de choses qui sont passées, qu'il faut récolter, parce qu'en fait, il n'y a pas que l'écrit. Mettons que, je vais donner un exemple tout bête, quelqu'un a eu énormément d'amendes sur plein de choses différentes, il les a reçues au fur et à mesure, ça a grossi, il se retrouve avec une amende énorme, et il va demander finalement mes services pour essayer de rattraper le coup, de demander peut-être une remise d'amende, de l'effacer complètement ou la réduire. Donc moi, le premier travail, ça va être de comprendre de quoi il s'agit. Et donc de me fader, si je puis dire, toute la liste de ce qu'il a reçu, parce que c'est peut-être à différents niveaux, pour vraiment comprendre de quoi il s'agit et pour écrire quelque chose en conséquence. Donc c'est difficile comme ça de le dire, mais ce que je vais faire, c'est que je vais rencontrer la personne, gratuitement il va sans dire, lui entendre sa demande, avoir toutes les informations à disposition pour me rendre compte de évaluer combien de temps ça va me prendre. Et du coup, voir le nombre d'heures que ça va prendre et établir un devis, quoi, tout simplement. En essayant d'être le plus proche possible de ça. Alors après, il y a des choses qui sont plus, je dirais, plus faciles à quantifier dans le temps. Si c'est une lettre de motivation, bah, déjà, on sait qu'une lettre de motivation, un CV, il y a un format à peu près connu. En général, on essaie d'être pas en dessous et pas au-dessus au niveau de la taille, du nombre de feuilles. Donc là, ça va être plus facile. Je vais pouvoir établir rapidement le devis. Voilà, ça va prendre tant de temps et ça va coûter tant parce que c'est un petit peu standard, même si chaque lettre de motivation est différente. Puisque, voilà. Mais voilà, ça va vraiment dépendre de la situation.
De quelle manière est-ce qu'on peut savoir que c'est bien un écrivain public qui l'a écrit dans le cadre d'une lettre de motivation? Quelque part, tu viens permettre à ce que la personne bluffe. On a parlé du côté discriminant, hein. Mais du coup, bah là, elle montre que non, tout va bien. Mais en fait, en réalité, ce n'est pas vrai.
Alors oui, c'est très c'est intéressant comme question. Alors, d'une part, la première chose à dire, c'est que l'écrivain public, il est ce qu'on appelle, dans le langage français, un prête-plume, voire ce qu'on appelle un nègre dans le langage littéraire, à savoir quelqu'un qui écrit pour quelqu'un d'autre et qui s'efface derrière cette personne. C'est-à-dire que ce soit une autobiographie, ou parce que ça peut être aussi le cas. D'ailleurs, j'effectue actuellement un travail avec une dame âgée pour ramener vers ses descendants sa mémoire. Donc, c'est une autobiographie, un récit de vie. Que ce soit ça ou même, ou justement simplement un courrier administratif ou une lettre de motivation, je vais m'effacer. C'est-à-dire que c'est la personne qui va le signer de son nom. Moi, je n'existe pas. Sauf exception où la personne a envie, dans le cadre d'un livre ou quoi, de mentionner qu'elle l'a fait avec l'accompagnement, avec mon accompagnement. Mais sinon, on s'efface derrière. Donc, effectivement, ça pose des questions, on va dire, de déontologie. Savoir jusqu'à où je peux réaliser ce travail pour quelqu'un. Alors, jusqu'à où je peux le faire ou ne pas le faire. Carrément, ne pas le faire. Dire, écoutez, non, dans ce cas-là, je ne peux pas le faire. Je vais y revenir. Ou je peux le faire, mais je vais vous accompagner. Ce n'est pas moi qui vais le faire entièrement à votre place. Voilà. Donc, effectivement, ça, c'est des questions. Typiquement, il y a un exemple qui est assez connu dans la profession. C'est celui des mémoires de fin d'études ou des thèses. On ne prend pas en charge ce genre de travaux. On peut le relire, le réécrire, donner des indications sur la mise en ordre, l'écriture, la syntaxe, aider à réécrire, faire un travail de réécriture avec la personne, mais pas le faire à sa place. Pour pas effectivement biaiser quelque chose qui serait de l'ordre de la triche, finalement, au final. De la même manière, faire les devoirs, un lycéen qui vient me voir et qui me dit, en fait, j'ai un devoir de français à rendre, je te paye tant et tu me le fais. Non, ça, je le fais pas. Voilà. Donc, effectivement, et c'est pas forcément évident. Alors, moi, à titre personnel, j'ai pas encore été mis devant vraiment un dilemme très... On est vraiment à la charnière, mais je sais que ça peut,
mais
que
ça peut arriver. Le cas de la lettre de motivation, quand même, me paraît assez parlante, puisque voilà, l'entreprise, le RH, enfin, employant des termes violents et pas très sympathiques dans le monde du travail, mais en tout cas, ces personnes-là s'attendent à avoir en peu de temps, par le CV, la lettre de motivation et puis peut-être l'entretien, globalement les compétences de la personne. S'il y en a une sur trois qui est édulcorée, j'allais dire.
Bah là, dans la lettre de motivation, ou dans le CV, hein, ou dans les deux, puisqu'en général, ça va ensemble, typiquement, il s'agit de dire les choses que la personne porte en elle. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment... Alors là, ça va être vraiment un travail de faire accoucher la personne de ce qu'elle sait faire, ce qui n'est pas forcément évident, parce que souvent, quand quelqu'un vient faire appel à un écrivain plus pour ce genre de service, il y a une question de confiance en soi qui n'est pas forcément présente, et ce n'est pas évident. Donc, il y a vraiment un travail presque social d'écrivain public de aussi redonner confiance en disant, mais si... Vous savez sans doute plein de choses et donc tout de faire accoucher, de faire dire à la personne, qu'est-ce que vous avez fait ? Mais parlez-moi d'expériences même personnelles. Parce qu'en fait, parfois, on a plein d'expériences qui sont de l'ordre du personnel et pas du professionnel et qui, en fait, sont super intéressantes et peuvent vraiment être des plus dans un travail. Donc, du coup, de les mettre en avant. Donc, de ne pas mentir, évidemment, de mettre que des choses qui sont de l'ordre de la réalité et de les mettre en forme pour que ça ressorte. Voilà. Alors, effectivement, ce qui va... Là où ça pourrait être effectivement édulcoré ou pas complètement conforme, c'est que c'est moi qui vais reprendre la lettre de motivation, le CV, et qu'il n'y aura pas de faute d'orthographe et de faute de syntaxe dessus, a priori. Et du coup, là, effectivement, si la personne elle-même, pour le coup, en fait beaucoup, ça ne se verra pas. Donc, c'est un petit coup de pouce. Mais ça se verra très rapidement par la suite. Donc, c'est important d'informer la personne là-dessus. Ça dépend à quel boulot elle va postuler aussi. Si elle postule pour un boulot où l'écrit est primordial... Très clairement, je vais dire, écoutez, je veux bien vous aider, donc je ne vais pas le prendre. Parce que je peux vous aider à avoir l'entretien, même peut-être à avoir le job, parce que ça va passer à l'oral. Mais au premier mail que vous allez rédiger, ça va pas passer, vous allez vous faire remercier. Donc effectivement, il faut vraiment, l'écrivain public doit vraiment tâter le terrain pour ne pas déjà faire quelque chose qui ne serait pas éthique, tout simplement, et aussi pas donner un faux espoir et faire un truc qui va capoter derrière. C'est un peu, c'est bête pour tout le monde, quoi. Donc il faut arriver à se situer. Et ça, c'est un travail d'analyse préalable qui est pas évident.
Parlons d'éthique, justement, Julien. Tout à l'heure, tu parlais de l'exemple de quelqu'un qui voudrait se faire annuler toutes ses amendes et donc qui va... Alors, pour un certain point de vue de personne, se faire annuler ses amendes, c'est pas du tout éthique. Et jusqu'où, quels sont les sujets que tu refuserais ? Est-ce que... Tu vois,
ah oui, les sujets.
Une lettre de réconciliation, mais que l'autre était tellement pourri.
Alors, si on prend l'exemple des amendes, rien n'empêche, je dirais même légalement, au-delà de
n'importe qui de le faire,
de contester. On a le droit de contester. Déjà, alors, il y a plusieurs étapes. Il y a contester l'amende et il y a demander l'annulation ou la réduction de l'amende globale. Ça, il n'y a rien qui l'empêche. Après, c'est avoir une stratégie. Est-ce qu'on conteste ? C'est presque. Alors, moi, je ne me substitue pas, attention, à du conseil juridique. En tout cas, je ne suis pas. Alors, j'ai beaucoup de notions de droit parce que je suis passé par là d'une certaine manière, mais je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste de profession. Donc. Je renvoie les gens pour qui c'est nécessaire vers un juriste. Par contre, et c'est aussi un des rôles de l'écrivain public, je connais un petit peu l'environnement administratif et judiciaire, et donc je peux donner quelques conseils et dire, bah voilà, on va plutôt partir sur contester, parce que ça semble contestable. Mais ça, on a le droit de le faire. Donc c'est à la fois éthique et possible de faire ça. Après, il y a l'autre question que tu poses, qui est plus de l'ordre de, de quoi si la personne était un salaud. Alors ça, c'est une grande question, hein, mais c'est une question de philosophie. Déjà, je ne connais pas, je ne vais pas forcément connaître la personne entièrement quand je vais la rencontrer. Hein, ça va être une personne que je rencontre pour la première fois.
Elle peut me donner ce qu'elle veut.
Elle va me donner un petit peu ce qu'elle veut. Donc, c'est à moi de ressentir effectivement ce qu'il y a derrière. Mais évidemment, je ne saurais jamais ce qu'il y a derrière complètement, très clairement. Donc, de ce point de vue-là, clairement, il y a une sorte de flou qui peut exister. Par contre, sur le sujet, sur qu'est-ce qu'on écrit, dans quel cadre, ça, je peux accepter ou refuser. Donc, je vais accepter de contester avec la personne, l'aider à contester ou demander une remise d'amende. Je vais refuser, si quelqu'un vient me voir, d'écrire une lettre d'insulte.
Même avec des belles syntaxes et sans faute d'orthographe.
Voilà, exactement. Si c'est quelque chose qui est... Et même si c'est à destination d'une personne que peut-être moi, j'estime ou je pourrais penser être un salaud. Voilà. Parce que c'est de l'invective et c'est illégal. Voilà, c'est de la calomnie. Et puis, c'est aussi une optique de communication qui ne correspond pas à mon éthique personnelle et puis à l'éthique de la profession. Donc voilà, quand ça va être quelque chose qui va être agressif, qui va avoir pour vocation à porter préjudice à quelqu'un...
Discriminant.
Ouais. À une personne physique ou morale, je ne vais pas le faire. Ouais.
Et ça t'est déjà arrivé ?
Non, je n'ai pas encore eu ce cas de figure de devoir refuser, tu veux dire
ouais.
Non, je n'ai pas encore eu à faire ça. Enfin, je dois dire que c'est un métier qui est récent pour moi. Hein. Ça fait quelques mois que je l'exerce, donc je n'ai pas encore eu tous les cas de figure.
Ouais. L'écrivain public, tu avais dit Scribe. Du coup, c'est une bonne situation, ça, Scribe ?
Au niveau économique.
Je ne pouvais pas m'empêcher de la faire.
La situation. Alors, j'en vis pas encore, mais je cherche à en vivre. C'est-à-dire que pour l'instant, je reste ouvert à des boulots à côté. Donc, je continue de temps en temps quand une mission haute que ça vient de... Mais mon objectif est d'en vivre. Et je suis persuadé que c'est possible. Qu'en fait, c'est un... Alors, comme toute entreprise, je dirais, comme toute nouvelle activité, c'est quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. Principalement parce que ça se met en place sur la base de la confiance et du bouche à oreille et de la confiance. C'est avant tout une question de confiance interpersonnelle. Et je trouve ça complètement compréhensible que les personnes hésitent à venir voir quelqu'un. Déjà, à venir voir quelqu'un en disant « j'ai besoin de vous parce qu'en fait, j'ai du mal avec l'écrit », c'est pas du tout évident. Et ensuite, peut-être parfois pour un sujet sensible. Bah, j'ai des problèmes avec les impôts ou je voudrais raconter ma vie qui a été assez compliquée. Un récit de vie, il y a toujours 50 trucs derrière, hyper, hyper difficile, hyper, hyper joyeux, mais aussi hyper difficile. Donc, c'est pas évident. Donc, je pense que c'est avant tout une question de confiance. C'est une question d'être connu et reconnu par les gens et puis, au fur et à mesure, être validé parce que ça s'est bien passé. Donc
là, c'est un petit travail de fourmi pour toi, là, maintenant.
Ouais, ouais, ouais.
Se faire connaître.
Exactement.
Et puis augmenter le nombre de personnes qui vont en parler autour d'eux.
Ouais, c'est vraiment ça. Il y a vraiment l'effet réseau, bouche à oreille, en fait, finalement. Et je pense que c'est réellement... Alors, ça ne marche certainement pas que comme ça, parce que je fais aussi des démarches en écrivant des mails à des structures qui ne sont pas forcément ici sur place, ou notamment des entreprises familiales, parce que j'essaye de travailler sur le récit de l'histoire, la saga des entreprises familiales. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire à distance, mais la prise de contact, je pense majoritairement, là où ça peut donner quelque chose et où ça peut créer vraiment quelque chose qui s'enracine, c'est par le contact. Le contact presque, enfin, je veux dire, physique, quand on se rencontre tout simplement. Et c'est pour ça, enfin, c'est pas pour ça, c'est pour ça, c'est dans les deux sens, mais c'est pour ça que moi j'ai à cœur de travailler sur le territoire pour pouvoir rencontrer les gens. Alors, si quelqu'un m'appelle d'Alsace pour écrire une histoire, je vais y aller avec plaisir. Mais j'ai vraiment envie, alors déjà pour des raisons qui me sont propres, de passer du temps. Moi j'habite à Saillant, donc dans la région, et donc au moins avoir une bonne partie de mon activité qui soit ici, du coup, qui soit avec les gens. Donc, c'est pour ça que le bouche à oreille est vraiment, vraiment important.
Est-ce que tu peux nous parler un peu du prix de tes prestats ?
Alors, en fait, il y a plusieurs types de prix en fonction de ce que je fais. Alors, selon si c'est... Y a, en fait, on va dire il y a trois types de tarification qui existent. Il y a celle qui se fait à l'heure pour certains travaux. Il y a celle qui se fait à l'entretien quand c'est des travaux de long cours. Donc, par exemple, typiquement un récit de vie. Donc, qui en gros, alors je vais revenir sur chacun des comment ça se passe. Et ensuite, il y a une autre manière de tarifier qui est au. Alors, ça, c'est plutôt, il faudrait que je revienne dessus pour distinguer, dans des travaux de correction, relecture, réécriture, et qui là se facture au nombre de signes par page. Voilà. Et en fait, le tarif, c'est pour une correction. Alors, je vais essayer de les donner. Je ne me les suis pas notés, tu vois, ils ne sont pas sur ma plaquette encore. Mais je vais essayer pour donner un ordre d'idée, en tout cas, sachant que. Toute prestation passe par d'abord un devis. Donc, ce que je vais dire, c'est à titre indicatif. Donc, pour un récit de vie, ça peut être C'est un minimum de 10 entretiens. 10 entretiens qui se passent. Je vais chez une personne et elle me parle de sa vie, cette personne, pendant une heure et demie.
Et toi, tu grattes ?
Moi, je gratte. J'enregistre surtout avec mon dictaphone pour tout avoir. Donc, hein, je rentre chez moi. Je fais je réécris tout le texte.
Alors, au kilomètre, là, tu réécoutes et t'écris tel quel ?
Là, alors, je réécris, sauf s'il y a des choses qui ne me paraissent pas nécessaires, je les récupère. Mais comme j'ai des notes, j'ai pris en note, en fait, à l'écrit, à la main, les choses qui sont vraiment importantes, qui me semblent vraiment importantes, et j'ai tout enregistré. Donc, je réécris, je fais la reproduction à l'ordinateur, hein, de ce que j'ai entendu, quasiment in extenso, mais pas totalement, et je vais vraiment surligner sur l'ordi ce que j'ai écrit qui me paraît vraiment important. Et ce que j'ai surligné, ça peut être de l'ordre du fond, comme de ce qu'il y a derrière, si la personne a été émue à ce moment-là, etc. Il faut vraiment que ça soit... Moi, j'en ai besoin comme information, je vais le prendre en compte. Et du coup, ça se fait sur, on va dire, un minimum de 10 entretiens. Ça dépend après la taille, si on veut vraiment écrire un petit récit de vie, je dirais, ou vraiment carrément une autobiographie de 300 pages, c'est possible. Donc, ça va nécessiter un petit peu plus d'entretiens. Bon, on va donner une base de 10 entretiens. Quand je reviens chez moi, en fait, je fais ce que je viens de dire, je remets à l'écrit. Et en fait, évidemment, ça va évoluer parce que entre l'entretien 1, 2 et 3, il y a des choses que je vais réinsérer. Il y a un ordre que je vais inverser, peut-être que je vais changer pour remettre...
Un travail de romancier, de scénariste, ouais. de réalisateur, quelque part.
Ouais, de mise en récit, en tout cas, de ce qui est raconté pour que ça ait une force, pour que ça ait une dramaturgie. Même s'il ne s'agit pas de modifier, du coup, il s'agit de respecter l'histoire telle qu'on la comprend de la personne. Sachant que la personne je vais lui donner à relire au fur et à mesure, alors pas à chaque fois, mais on se met des petites échéances et au bout de 3 entretiens, 4 entretiens, paf, je tire à la machine, au photocopieur ce que j'ai fait, la personne va le relire et elle va mettre des petites annotations. Là, non, au niveau du style, ça va pas, je voudrais un style plus simple ou un petit peu plus élaboré. Au niveau de la forme, au niveau du contenu, ça, je voudrais pas qu'on en parle. En fait, je t'en ai parlé à l'oral, mais je voudrais pas qu'on en parle. Ou je voudrais qu'on en parle, mais de manière un petit peu édulcorée, que ça soit sous-entendu. Donc, il y a tout ça qui va me demander du travail de réécriture derrière. Et ça, on va dire, ça prend 10 entretiens. L'entretien, je le facture, selon les cas de figure, entre 160 et 200 euros.
Ouais, on imagine, parce que là, c'est quand même un travail de fou, ça.
Voilà. Et derrière, on va dire, ce qui se dit, c'est que derrière une heure d'entretien, il y a entre 5 et 7 heures de travail de réécriture. C'est une échelle qui va... beaucoup varié. En fait, ça dépend de chaque entretien, parce deux entretiens différents avec une même personne, parfois il y a besoin d'un nombre d'heures et parfois un nombre d'heures supérieur sur un autre entretien parce qu'il a été beaucoup plus dense, parce que par exemple il amène des recherches à faire. Après, ça dépend quelle est la demande. Là, typiquement, la personne avec qui je travaille, c'est très intéressant parce que c'est une personne qui habite dans le coin et qui a toute sa vie vécu dans le coin. Donc il y a un aspect évidemment individuel sur sa propre vie, mais c'est très lié au patrimoine et à l'histoire locale de là où elle a vécu. Et du coup, ça m'amène, avec son accord et avec sa demande, parce que ça pourrait être, non, on n'a pas besoin d'avoir ce cadre-là, à faire des recherches sur comment ça se passait à ce moment-là, dans ce territoire-là. Quel était le contexte dans les années 50, par exemple. Et donc là, je fais des recherches, et ça, évidemment, c'est du temps en plus. Donc c'est un boulot passion, donc du coup, ça amène à ne pas compter ses heures, très clairement. Mais parce que ça m'amène, je me rends compte, à ne pas compter mes heures, ça m'amène très clairement à me positionner sur des tarifs et à essayer de m'y tenir. Parce que l'idée, c'est d'en vivre. Donc voilà. Donc de 160 à 200 euros pour ce type de travail, récit de vie. Après, une grande partie des travaux, mais plus courts, vont être facturés à l'heure. Moi, je suis à 40 euros de l'heure. Je peux baisser mes tarifs dans certaines situations, quand notamment la situation économique de la personne... lui permet pas de payer un tel tarif, c'est quelque chose qui est envisageable. Donc, en gros, les prix sont discutables dans une certaine mesure. Et ça peut aller, pour une institution, je vais plutôt demander 50 euros, si c'est une institution qui m'emploie, tel que ça va peut-être être le cas. J'attends un retour pour le tribunal de Valence, pour un emploi d'écrivain public, dans un cadre public, pour le coup. C'est-à-dire que ça serait un écrivain public qui est rémunéré par le département et qui est un service gratuit pour des justiciables qui viendraient après en sortant de chez leur avocat pour être aidés dans leur démarche. Dans ce cas-là, je demande 50 euros de l'heure pour une structure institutionnelle, quoi, on va dire, ou une entreprise. Et puis après, l'État, j'ai pas évoqué, là on parle vraiment de travail de rédaction, c'est tout ce qu'on a dit maintenant. Il y a un autre travail qui est un travail de correction, enfin relecture, correction, réécriture. Alors il faut distinguer. La relecture, on relit le texte, hein, ça c'est une évidence. On ne relit pas juste pour relire. Et ensuite, après avoir relu, Soit on fait une correction simple, c'est-à-dire qu'en gros, je m'applique à corriger uniquement les fautes d'orthographe, de syntaxe, de manière sans reprendre quelques formulations qui sont inexactes, vraiment erronées. Mais je reprends le texte au fil de l'écrit, je ne le modifie pas du tout. Et ça, c'est 3 euros pour 1500 signes. Donc en fait, une page, 3 euros. Une page de... Voilà. 1500 signes, c'est à peu près une page de A4, quoi, on va dire, écrite.
Quand on dit un signe, c'est la lettre,
carrément. Ouais, et les espaces sont comprises.
Et les virgules et tout.
Ouais. Donc ça, c'est ça. Et après, si c'est de la réécriture, alors la réécriture, c'est différent, c'est on corrige, évidemment. Mais en plus, on réécrit, c'est-à-dire qu'on remet dans l'ordre, on va inverser deux phrases si ça aide à la compréhension. On va changer vraiment la syntaxe pour que ce soit plus fluide et plus lisible, en fonction du destinataire, évidemment. Et dans ce cas-là, c'est plus élevé. C'est selon le texte. Alors là, il y a selon qu'est-ce qu'il y a à reprendre en syntaxe, ça varie entre 6 euros et 15 euros les 1500 signes, donc la page, quoi. Voilà.
Tu es donc à Saillant, tu te déplaces, on l'entendait, ouais. Jusqu'en Alsace.
Ouais, si on m'appelle en Alsace, oui.
Mais du coup, comment tu prévois de te déployer sur ce territoire-là? Dis, c'est un secteur que tu vises aussi, le Haut-Diwa, ouais. Plus bas dans la vallée.
Alors, quand j'entends le territoire, en gros, j'entends entre Valence et le Haut-Diwa. Après, je ne suis pas fermé, ça va vraiment dépendre des opportunités. Mais c'est vrai que moi, le territoire que je connais, c'est surtout la vallée jusqu'au Haut-Diwa. C'est plutôt celui-là où je suis implanté depuis, j'habite depuis 6 ans dans le coin. Et du coup, ça serait plutôt ça. Alors après, comment ça se passe? En ce moment, j'essaye de me faire connaître. Je le fais en venant aujourd'hui, évidemment. Je l'ai fait sur les marchés. Je l'ai fait un petit peu là. Je me suis posé. C'était très sympa. D'ailleurs, j'ai été accueilli par plusieurs lieux. J'ai été accueilli par la librairie de Die Mosaïque, que je tiens à remercier, plusieurs mercredis de suite. J'ai été accueilli aussi à celle de Cré, à la Balançoire. Et il y a également un restaurant, Les Métissés, à Saillant, que je salue au passage, qui m'a accueilli plusieurs mardis. Je fais une petite permanence le mardi de 17h à 19h. Voilà, peut venir qui veut. Donc ça, c'est une manière visuelle, je dirais, de faire parler de moi. Et puis bah, l'autre, ça va être le bouche à oreille. Voilà, ça va beaucoup être le bouche à oreille.
Et c'est ouvert à tous.
Bien sûr.
Et toutes.
Oui, ouais. Tout à fait, ouais. Bien sûr. Et il ne faut pas hésiter à pousser la porte ou à me contacter. Pour en discuter. De toute façon, l'idée, c'est de se voir, d'en discuter. Et puis après, ça peut donner suite ou pas donner suite. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'engagement à me contacter, en fait, tout simplement. Même pour avoir des conseils, parce que je peux aussi vous conseiller, au vu de ce que vous me direz, ben non, en fait, ça ne vaut pas forcément le coup de venir me voir. Je pense que vous pouvez faire autrement, à moindre frais également. Ça, je n'hésiterai pas à le faire, parce que ça fait partie de mon éthique, quoi, tout simplement, de renvoyer les gens vers là où c'est le mieux pour eux, tout simplement.
Comment on te contacte?
Alors, on peut me contacter par divers moyens. J'ai appris que je pense à ça, c'est un pote qui me disait hier, les pigeons voyageurs existent toujours.
Oui.
Et il y a c'est dans l'armée. On élève toujours des pigeons voyageurs. Il y en a 120 à Suresnes, là,
tout à fait.
Au Mont-Valérien. C'est dingue, hein, que ça existe.
Pour passer de l'écrit.
Ouais.
C'est dingue, mais en fait, c'est une des dernières choses qui marchera.
Le jour où l'ELEC pète complètement, ouais. On a encore les pigeons voyageurs. Donc, bon, moi, j'ai pas de pigeons voyageurs.
En fait, il te faut un pigeonnier déjà, parce que les pigeons voyageurs reviennent chez toi.
Ouais,
donc à la limite, tu pourrais distribuer des pigeons, et ils reviendraient tous chez toi.
Ouais, il faudrait que j'y pense. Mais pour l'instant, parce que je n'en suis pas encore là, j'utilise les moyens communs et habituels de communication. Alors, on peut me contacter par téléphone au 06 01 78 12 09. Je répète, 06 01 78 12 09. Ou par email. Alors, j'ai pas donné le nom de mon entreprise. Ça s'appelle La Virgule Point. Alors en fait, il y a un petit. Je me suis bien cassé la tête, hein, pour trouver le nom. La Virgule Point, c'est en fait. J'étais très. Le point virgule comme signe de ponctuation est très intéressant. Je pourrais en parler d'ailleurs des heures. Hein, c'est hyper passionnant. Mais le point virgule, c'est déjà pris. Alors, il y a un théâtre à Paris qui s'appelle Le Point Virgule. Et puis, il y a je sais pas combien de boîtes. Donc, il a fallu que je me démarque. Et du coup, c'est venu avec des discussions, notamment aussi avec des copains. Et du coup, j'ai inversé. Et ça donne la virgule point, sachant que dans la virgule point, le point, c'est le verbe poindre, apparaître.
Ah, le jeu de mots.
Ça prend un T. Donc il y a le jeu de mots, voilà. C'est très à la mode.
Il faut le dire. Non, mais il faut le dire, parce que sinon, à la radio, je suis en train de me dire, bon, il a juste inversé.
C'est pas une erreur, ouais, voilà. C'est pas le mec qui a confondu le point virgule avec. Non, la virgule point, c'est une expression presque poétique, que je veux poétique, de. Il y a la virgule qui apparaît, ça pointe, donc ça ne ferme pas, c'est pas un point final, ça ouvre à notre rencontre future. Donc la virgule point. Et du coup, mon mail, en toute logique, c'est contact, @la.fr. Alors attention, évidemment, c'est là, je n'avais pas trop réfléchi en créant la boîte. C'est
ça
que
fait point, point.
Ça prête à confusion. En fait, c'est la virgule point en toutes lettres. Donc, LAVIRGULEPOINT, point, un vrai point, fr. Contact, @la.fr en toutes lettres, point fr.
Et s'il y a un la virgule point derrière, c'est que bientôt, il y a un site.
Alors voilà, il y a un site en construction
qui ne saurait
tarder. Je touche le bois de cette table du studio pour qu'il voit le jour prochainement. Non, d'ici la fin de l'année, il y aura un petit site qui facilitera la visibilité. Et puis vous verrez peut-être, hormis si vous me croisez dans un des lieux que j'ai mentionné, ma brochure voilà, à la médiathèque, à la librairie, dans des lieux du territoire, que j'ai une petite brochure papier avec laquelle j'essaie de me faire connaître.
Eh bien, Julien Lescaut, merci d'être passé à la radio.
Ben, merci beaucoup.
Tu repasses quand tu veux.
Merci beaucoup à toi, Baptiste, pour cet accueil.
Belle journée.
Merci.
Interview. OK, le beurre. Interview. L'interview du jour.